BFM Radio, Goût de Luxe. Emmanuel Rubin, Karine Verniol.
Bonjour et tout d'abord, très bonne année à vous. Excellente année, tous nos vœux de goût et de luxe. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette année 2010, mais en ces lendemains de fête, avouons-le. Place à la paresse, nous vous offrons une grasse matinée, ça fait pas de mal. Et pour l'occasion, Emmanuel Rubin, rédacteur en chef de l'Optimum, critique gastronomique et mon alter ego, tous les week-ends sur BFM Radio, je vous l'avoue, est venu en pyjama.
Ou pas loin, oui. Karine, premier goût de luxe de la nouvelle saison, premier goût de luxe 2010. 2010, vous avez dit 2010. Eh bien, pas mécontent d'y aborder, car surtout pas fâché de lâcher nos charmantes années 2000, les bien nommées années double zéro. Celles-ci impayables, souvenez-vous, les années 2000, les années bonne disposition, nouvelle ère, nouveau millénaire, changement de siècle, début de siècle, et le début de siècle qui aura donné ce sentiment de commencer par la fin, trop plein de bling, trop plein de bang. Alors, zou, du ballet, oust, laissons l'affaire aux historiens, et bien du plaisir à eux, car nous, on a déjà donné, place donc à 2010, droit devant, on ne peut pas se tromper, mais alors, prière de ne pas repiquer, cette fois, ni faux espoirs, ni faux semblants, et du coup, pour ce premier week-end, une émission ad hoc idoine, une spéciale grasse mat, autant avouer, un petit éloge de la paresse, le goût de la prélasse, le luxe d'en écraser, le charme de l'entre-deux, quelque part entre sommeil et réveil, nos quotidiens en hamac, le confort de la parenthèse, le disponible d'y être sans y être, deux heures de somnol, les voluptés du formol, j'en fais trop? Allez, entre nous, pas franchement. Après tout, ça fait longtemps qu'on nous a promis l'espace, la lune, les étoiles, et en 2010, toujours pas. Alors pourquoi pas? Une illusion d'apesanteur deux heures durant, et cette chronique à l'avenant, d'une plume claire de lune, volage. Celle-là, elle vous épargnera les best-of, les bêtisiers, les tops, les flops, les meilleurs du pire, les champions des champions. Plume délicieusement lasse à ne pas rétrospecter l'hier, l'avant-hier et l'avant-avant-hier. Plume pas plus pressée à vous exhorter aux ineffables bonnes résolutions. Puisqu'on le rappelle, la meilleure des bonnes résolutions est encore de ne jamais en prendre, ce qui évite de se décevoir lorsqu'on finit toujours par découvrir qu'on eût été incapable de tenir sa promesse. Good luxe en grasse mat donc, et rien qu'à dire le mot grasse mat, comme cela, dans l'intime de nos micros, dans le frisson de ce studio, Karine, l'année ne commence pas si mal, puisque nous voici, vous et moi, moi et vous, dans de vrais beaux draps.
Ah, si seulement c'était vrai. Deux heures pour s'offrir la plus belle des grasses matinées. Finalement, c'est vrai que cela n'arrive pas si souvent. Et pour traîner au lit, il vous faut le meilleur de la literie, bien évidemment. Une sélection signée de notre chroniqueuse déco, Sylvie Adigard, dans un instant. Rester chez soi, c'est aussi errer dans la plus confortable des tenues d'intérieur. Notre personal shopper, Isabelle Lefort, a fait son choix. Et pour affronter cette paresse, vous prendrez bien un petit thé ou un petit café. Pour le thé, c'est Sylvain Aurébi, dirigeant de Cousmité, qui s'en charge. Pour le café, c'est Claire Delbos, auteur du Paris gourmand du Petit Futé, qui vous a sélectionné les meilleures brûleries parisiennes. Enfin, pour le croissant, c'est Augustin Paluel-Marmont, co-auteur d'un guide des boulangeries de Paris. Et pour le petit-déj de luxe, Emmanuel Rubin a testé pour vous toutes les adresses parisiennes de brunch. Mais pour l'heure, quoi de neuf ? Sur quoi s'ouvre cette année 2010, Emmanuel ?
Allez, on va faire les petits tours de restaurant, là. Ça commence fort avec la Villa, qui vient d'ouvrir cette 37 avenue de Friedland, dans le 8e arrondissement parisien. La cuisine, l'assiette, je ne peux pas encore vous en parler puisque je ne l'ai pas testé, mais ça viendra tout bientôt. En revanche, je peux déjà vous parler du lieu. Alors le lieu, il est signé par l'équipe du Magnifique. Vous savez, ce bar qui a été lancé il y a 2 ans aujourd'hui, dans l'esprit du fameux film de Belmondo, c'est-à-dire un petit peu playboy, show-off, mais très très réussi, nous sommes du côté de la rue de Richelieu. Et ils n'arrêtent pas, cette équipe-là, bien ma foi, d'essayer de relancer un petit peu les nuits parisiennes en manière, oui j'allais dire un peu 70s, mais pas 70s pop. Vous savez, un petit peu 70s flambe glorieux, où les mecs étaient un peu des mecs et les filles étaient un peu des filles. Alors c'est le Magnifique, donc rue de Richelieu. C'est très dernièrement, du côté déjà de l'avenue de Friedland, le Secret, un joli petit bar à cocktail avec des vrais mixologistes qui orchestrent comme cela derrière le comptoir des cocktails, ma foi, délicieusement glamour. Ce sont des lieux donc très réussis. Ils ouvrent avec la Villa un lieu, ma foi, qui se veut bien sûr un restaurant de jour et surtout de nuit, et surtout un lieu fort. et il faut dire qu'ils se sont entourés de deux très très grands designers, deux enfants de Stark qui ont su se départir de Stark. Ils s'appellent Gilles et Boissier, sont vraiment des gens épatants et qui travaillent, je trouve, ici un formidable décor, décor d'amplitude, avec bien sûr bar, salon et puis salle de restaurant, dans un esprit et dans un style qui revient très fort, on en parle très peu, c'est le style années 40. Alors c'est le... C'est un style qui est méconnu, le style années 40. C'est un petit peu le style qui va prolonger l'art déco, mais sans départir tout autant. Et puis, parce que les années de guerre, parce qu'on sait ce qui s'est passé à ce moment-là, on l'a un peu oublié, mais c'est un style bourré, pétri d'élégance, qui nous renvoie un petit peu à l'esprit des films noirs. Ici, comme ça, dans un lieu très réussi, très post-années 40. C'est le cas aussi, d'ailleurs, de Tout Mieux. Vous savez, la brasserie de luxe, là, de Coste et de Piège, du côté de la rue Saint-Dominique à Paris, dans le 7e, c'est l'adresse où il faut être actuellement. Là aussi, c'est dans un esprit années 40. Alors, avant de vous parler de la cuisine, qui m'a l'air d'être une cuisine gentiment fusionnante.
De la night, quoi.
Une cuisine... Non, pas forcément, parce qu'il paraît qu'il y a un jeune chef qui va au déjeuner du mois et par la suite au dîner essayer de sortir des plats un petit peu plus chic, un peu plus se poussant de la toque. Mais pour l'instant, on est dans une cuisine gentiment parisienne. Mais il y a un vrai beau lieu et c'est vrai que
vous irez tester,
ça manque vraiment à Paris ce genre d'adresse. On peut déjà signer, effectivement, signaler, je pense, l'un des jolis petits décors de cet hiver 2009-2010. C'est la villa 37 avenue de Friedland dans le 8e arrondissement.
À Paris. Sur le web, quelle délice a lancé l'encyclopédie gastronomique en ligne des 450 pays de France. On va en reparler durant cette émission des artisans de bouche. Et voilà la bonne idée de quelle délice. Alors, c'est le premier site français sur la gastronomie. L'idée, c'est d'aider les producteurs à vendre leurs produits, à défendre toute la gastronomie française, tout le savoir-faire français en la matière. Et donc là, ils ont mis en ligne les premières pages de l'encyclopédie gastronomique des pays de France. Ils ont commencé par la région Poitou-Charente, bah oui, pourquoi pas. Et c'est 25 pays. Alors, comment ça marche? Une balade interactive au cœur des pays de France, de leurs produits, de leurs spécialités gastronomiques. L'encyclopédie révèle que sans les terroirs et leurs spécificités, les produits typiques et de caractère n'existent pas, bien évidemment. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Ils collaborent avec Frédéric Zegirman, qui est auteur du Guide des Pays de France et qui est spécialiste en géographie pour rédiger le contenu de l'encyclopédie. Et donc, on explore chaque pays de France. Alors, les pays de France, c'est un peu eux qui l'ont créé. C'est, ils vous disent, hein, il y en a 450, mais c'est des micro-régions, en fait, de terroir. Et donc, on explore chaque pays de France à travers sa géographie, ses producteurs, ses spécialités gastronomiques et ses événements festifs et culinaires. Donc, tout ça, ça va être une masse d'infos rassemblées sur le web. Ça commence tout juste, mais quand tout y sera, vraiment, c'est une fort bonne idée de recenser tout ça.
Travail de bénédictin.
Voilà, et quand vous irez vous balader ou que ce soit en France, vous aurez toutes les bonnes adresses et vous retrouverez les producteurs à découvrir et les artisans de bouche. www.queldelice.com/encyclopédie. Queldelice, c'est K-E-L-D-E-L-I-C-E. On vous redonnera tout ça sur le site internet bfmradio.fr.
Encore une adresse?
Oui.
Parisienne. Allez, rapidement, c'est une vieille de la vieille. D'ailleurs, elle s'appelle La Vieille, cette adresse. Nous sommes dans Paris, rue Bailleul. C'est le premier arrondissement. C'est historiquement ce que fut le ventre de Paris, les fameuses Halles. Et cette adresse appartenait à cette, j'allais dire, cette mythologie de ces adresses, fortes en gueule, où on parlait la fameuse jactance, des bouchers des Halles, le louche même. C'est des adresses ouvertes tard le soir, qui ne fermaient jamais d'ailleurs. Il en reste très peu. L'une des dernières, c'est bien sûr la tour de Montlhéry, rue des Prouvaires. Et il y a La Vieille. Alors La Vieille, elle s'est calmée, c'est-à-dire qu'elle a pu ses horaires d'insomniaque, mais depuis des années, elle était orchestrée par une bonne femme qui s'appelait Adrienne. C'était une mère parisienne, comme il est des mères lyonnaises. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup donné. Alors, on y allait d'abord pour une cuisine, j'allais dire de maman, mais on n'a pas forcément eu des mamans comme ça, c'est presque de grand-maman ou d'arrière-grand-maman, mais une vraie cuisine de terroir, de tous les terroirs de la France, puisque c'est ce qu'avalait Paris. Donc, on avait des formidables entrées, vraiment un travail sur les hors-d'œuvre, des terrines, des charcuteries qui n'en finissaient plus, des tomates farcies qui étaient la spécialité
maison.
Oui, mais
aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, donc,
la Alors elle vient de tirer la révérence, ouais. Elle était déjà un petit peu en pointillé. Et qu'est-ce qui la remplace? Là, depuis quelques jours, il va bientôt prendre la mesure de l'adresse. Pour l'instant, il prend la chauffe, comme on dit, il prend la mesure de l'adresse. Eh bien, c'est Michel Delburgo. Et Michel Delburgo, c'est un drôle de personnage, parce que c'est un chef qu'on a connu dans les grands palaces parisiens, puis qui était parti dans le sud de la France, notamment à Nice, réveiller le Negresco, puis parti faire des aventures du côté de Moscou, puis il était reparti, on l'avait annoncé à Ajaccio. C'est un véritable furet de la gastronomie. Il ne s'est jamais s'arrêté. On aimerait bien qu'il ait enfin trouvé adresse à sa mesure. Et ça va être intéressant de voir un chef qui, justement, est un grand chef avec tout ce que ça implique de création, de composition, de côté signature et auteur, dans une maison, j'allais dire, très patrimoniale ou matrimoniale, qui aime à, justement, faire perdurer les grands classiques. Est-ce qu'il va les relooker, revisiter, les réinterpréter, ou est-ce qu'il va laisser l'adresse dans son jeu ?
Il va tout changer.
On va voir ça. En tout cas, jeter un œil, ça sera une bonne manière aussi d'aller découvrir ce restaurant La Vieille, parce que c'est aussi une sacrée gueule d'auberge à la parisienne.
Voilà, La Vieille, rue Bailleul, dans le premier arrondissement à Paris. Toujours à Paris, un nouvel hôtel. Alors là, c'est assez radical. C'est la même équipe du Color Design Hotel. Et là, ils signent le BLC Design Hotel. On dit BLC, en fait, pour blanc. Je vous explique pourquoi. C'est la décoratrice Carole Picard qui s'y est collée. Parce qu'il y a deux grandes thématiques dans cet hôtel, le blanc et la femme. C'est-à-dire qu'on est sur une déclinaison de blanc dans tous les coins de l'hôtel, sur les 6 étages et les 29 chambres. Et dans les 29 chambres, on a aussi une déclinaison de la femme, avec à chaque fois une représentation de la femme, placée en tête de lit, une photo géante de femme. Donc ça, déjà, vous imaginez, c'est assez radical dans le design. Et en plus, ils ont cassé totalement certains codes de l'hôtellerie. Par exemple, il n'y a pas de cloison, seul un rideau peut créer une séparation éphémère entre deux chambres. Il n'y a plus de moquette au sol, mais du carrelage. Il n'y a plus de rideaux aux fenêtres, mais des stores occultants. Il n'y a plus de penderie, mais des tiroirs sous les lits. Ils vont très très loin. Alors, il faut voir si ça va suivre, parce que c'est pas évident qu'on casse tous les codes comme ça d'un coup. Mais voilà, si vous voulez changer totalement de crèmerie, voire autre chose assez radicale, des chambres entre 10 et 15 mètres carrés, 175 euros la double. Ça se passe du côté de la rue Richard Lenoir dans le 11e arrondissement.
Très bien.
Voilà, et ça s'appelle le BLC Design Hotel. 30 secondes, Emmanuel.
Allez, 30 secondes. Allez, c'est fini les cadeaux, mais c'est bientôt la saison des neiges et du ski. Et comme chaque année, vous savez, Ferrari s'amuse à sortir autre chose qu'une automobile. Et bien cette année, après les skis, c'est une luge. Attention, luxe haut de gamme, conçu et réalisé dans l'esprit Ferrari, donc forcément et fatalement rouge, frein en aluminium, siège en polycarbonate résistant aux impacts, design ergonomique bien évidemment, transportable dans un sac adapté.
Avec 800... un volant
800 euros tout de même. Ah non, vous savez, la luge, on n'a pas besoin de volant. 800 euros, la rigolade. Bon, écoutez, allez les voir sur store.ferrari.com. C'est un petit bijou, une espèce de
on ira voir, on fait une petite pause.
Sur BFM permanent, pourquoi pas.
Sur BFM Radio. Et on commence notre grâce matin, tout bien, tout honneur. Et oui, c'est la première émission de l'année sur BFM Radio.
BFM Weekend. Pendant les fêtes, BFM Radio ouvre le grand livre de l'économie. Les dossiers de BFM Radio avec David Doba, spécial Saga des marques.
Trouvez-moi dimanche pour découvrir la saga MK2. Marine et Nathanaël Karmitz seront nos invités dès 19h pour découvrir avec eux la saga de cette marque devenue incontournable dans le secteur du cinéma.
Pendant les fêtes, feuilletez les dossiers de l'écho sur BFM Radio.
Pierre Kupferman, rédacteur en chef adjoint à la Tribune.
Nos territoires sont-ils devenus responsables face à l'engouement des Français pour le développement durable? C'est la question que posera la Tribune à une dizaine d'élus et d'industriels lors de la deuxième édition du Forum des décideurs. Nos invités y parleront gestion des déchets, efficacité énergétique et technologie verte. Une bonne façon de poursuivre les débats engagés lors du sommet de Copenhague. Renseignements et inscriptions sur www.forumdesdecideurs.fr.
BFMradio.fr, abonnez-vous au podcast et téléchargez gratuitement toutes les émissions de BFM Radio.
C'est une alerte qui prouve que la crise financière n'est pas totalement finie, même si le gros est derrière nous.
Les bénéfices des entreprises non financières n'ont pas baissé.
Sur BFMradio.fr, écoutez tout BFM Radio en direct.
Pourquoi les marchés se réveillent tout d'un coup alors que les données étaient largement disponibles, y compris même sur cette antenne.
Sur BFMradio.fr, en live ou en podcast, BFM Radio, toute l'écho, quand vous voulez.
BFM Radio, goût de luxe. Emmanuel Rubin, Karine Verniolle.
Des goûts de luxe sous la couette cette semaine. Et oui, en ces lendemains de fête, c'est grâce mat aujourd'hui dans Goût de luxe, n'est-ce pas Sylvia Digard?
Ben oui, je suis restée sous la couette, je suis désolée.
Ah mais oui, alors vous, on vous dit de parler de literie, de linge de maison, de voilà, et vous restez carrément au lit. Bon,
ça s'appelle du journalisme in situ.
Oui, mais il faut toujours être testé dans l'action.
C'est un peu, voilà. Elle a un peu fait l'acteur studio, vous voyez, plutôt que faire une école de journalisme, elle a décidé de se mettre tout le temps dedans.
On a fait la même, alors je vous prie.
Paraît-il, mais attention, ouais. Hein, c'est pas parce qu'on est sous la couette qu'il faut commencer à verser dans la vie privée. On commence bien l'année, on est sérieux. Déontologie, mademoiselle.
Déontologie, d'accord. Très bien.
Alors, c'est vrai qu'on vous a même pas souhaité bonne année, très bonne année, Sylvie.
Bah écoutez, oui. Hein, meilleure que l'année dernière.
Voilà, hein. Une excellente année 2010. Alors, en matière de literie, pour revenir à nos moutons, en matière de literie, ça bouge.
Oui,
ça bouge. Et c'est vraiment goût de luxe pour le coup.
Oui, ah bah, carrément. Alors, déjà, on ne le répétera pas assez, une bonne literie, c'est essentiel pour un bon sommeil, évidemment. Et il faut savoir qu'une bonne literie, c'est 53 minutes de sommeil en plus. Donc, ce n'est pas rien. Mmh. Et alors, aujourd'hui, en faisant mon enquête et en testant et en sautant sur tous les lits et tous les matelas de la planète, je me suis rendu compte que, ils sont devenus bons, enfin ça c'est déjà ils l'étaient quand on met le prix, mais ils sont bons et ils sont bio. D'accord ?
Carrément.
Ah, carrément. Et alors
alors un beau bon bio, ça donne quoi ?
Ben, je vais vous dire, on tombe carrément dans le luxe, c'est moins moche, c'est déco et c'est innovant. Donc carrément maintenant, avant c'est vrai qu'on se disait oh là là, faut que je change mon lit. Maintenant on va se faire ouais, je vais changer mon lit.
Vous êtes sûr, va falloir me convaincre.
Je vais vous convaincre. Alors d'abord, le lit national, c'est une entreprise familiale française qui est au Pré Saint-Gervais à Paris. Ce sont des artisans. Hein. Mmh. Ils ont fait des artisans qui ont pignon sur rue, boutique à Paris, etc. Le dernier né de un modèle qui répond à tout ce que je viens de dire, c'est le lit tatami. Pourquoi ? 100% artisanal. Le cadre de lit. Parce qu'il faut savoir que maintenant, on ne parle plus literie, lit, sommier et matelas. On parle aussi tête de lit.
Ah oui,
c'est-à-dire les grandes marques ajoutent la tête de lit avec. Alors donc, chez Lit National, ce fameux lit tatami, figurez-vous que le cadre de lit, il est en bois. Mmh. Mais bois éco-responsable, il n'y a pas de clous, pas de vis, pas de colle. Le matelas, il est en mousse naturelle faite de coton bio et surpiqué bio-laine. Ça veut dire que ce sont des laines non traitées. Les bestiaux, ils gambadent dans des prés très bio.
Ça nous fait une bonne laine.
C'est de la bonne laine. Et alors, eux, le lit national, ils s'acoquinent avec des gens qualitatifs, donc c'est du plus-plus, hein, notamment avec la marque allemande et il propose, alors bon, je vous disais bio, mais à côté de ça c'est du très bon lit, c'est-à-dire qu'on a pas mal au dos. Exemple, ressort fabriqué à la main. Vous savez, les ressorts, ils sont ensachés un par un. Il y a des petits sachets pour justement, enfin, ça c'est très technique, mais c'est pour les formes du corps, vraiment suivre la forme du corps, etc. Chaque ressort est indépendant et il épouse vraiment, je vous disais, les courbes du corps. Et puis, les sommiers sont motorisés, mais vous savez, c'est pas les trucs de mémé, quoi. C'est pas le lit d'hôpital. C'est vraiment, on peut avoir un lit comme ça et quand même faire
l'ajuster.
Des parties de jambes en l'air.
Ah, de l'ajuster. On a l'impression un peu que vous parlez que d'une automobile, là, désormais. Ça devient une espèce de grosse mécanique, c'est lit.
Exactement. Là, je vous parle de quelque chose qui est extrêmement technique et qui vaut le coup au niveau investissement parce que la vie va en être meilleure.
Mais voilà. Justement, quel prix pour ça, Sylvie? Ben, c'est le prix de
6 000 euros ça. Par là, quoi. Voilà. Alors après, eux, ils travaillent aussi avec Dominique Tissier, qui est créatrice de tissus, et avec elle, ils ont fait tissus organiques, sans engrais, pesticides. C'est-à-dire qu'ils vont jusque là. C'est-à-dire que ils travaillent aussi au niveau, ils vendent aussi, pardon, des couettes, des oreillers. Alors c'est du duvet de Sibérie, du duvet de mue. Vous savez quand la loi mue, oui. De canard, peau de chameau, poil de chameau. Cachemire. Et autour de la couette, le tissu, le coton, il est bio.
Ah ouais, alors là, c'est jusqu'au boutiste.
Oui, un peu trop. Mais d'ailleurs, on a un peu le sentiment de coucher avec José Bové à l'arrivée. Faut se calmer
non,
dans le bio.
Ça se voit pas.
Ça se voit pas.
Je continue.
Oui.
Alors, après, chez Simons.
Oui. Ah, mais ça, je connais Simons.
Oui. Voilà, à la fois confortable et déco. Quand je vous disais la tête de lit. Là, ils ont sorti un modèle. C'est matelas et tête de lit ornés de 41 capitons en cristaux Swarovski. Comment ?
C'est pas kitsch ?
Non, c'est pas kitsch. Non, c'est sympa. Non, enfin, faut aimer le côté un peu.
Oui, d'accord. Assumer.
Mais bon, voilà, ça va avec, quoi. Enfin, et 14 sur la tête de lit. Et bon, ça reste du bon matelas. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Toutes ces marques, et qui sont françaises d'ailleurs, vont jusqu'au détail, tout en préservant la qualité.
Finalement, elles rendent un petit peu glamour le lit, la corvée du choix du matelas et du lit, quoi, qui au départ, c'était juste de l'utile.
Ben, exactement. Vous vous rappelez Dunlopillo, dormez comme vous aimez, là.
Oui.
Bon, alors Dunlopillo.
Fille de pub.
Oui. Dunlopillo, petite parenthèse, vous savez que Oraito et Matalikra, c'est avant, et Oraito aujourd'hui, dessinent toute une ligne de meubles. Ils se lancent dans le mobilier, bon. Mais ils restent dans la literie. Et là, eux aussi, ils ont fait dans le design. Donc, ils ont sorti un modèle noir-blanc. Très design, très joli, très chic, très simple, très sobre. Mais alors, au niveau, pareil, technologie et matelas, c'est en soie et laine pour l'hiver, soie et lin pour l'été. Vous retournez, vous savez ?
Ah oui, oui.
Vous avez la face, soie laine hiver, soie lin été, soie comme soirée. Hein,
oui,
comme
oui, on a bien compris.
C'est le lieu automne-hiver et printemps-été.
Voilà, c'est voilà, les collections.
Oui, c'est ça, c'est les collections, exactement.
C'est presque alors, feng shui tout ça, finalement. C'est... Ça suit les saisons, l'inspiration, les têtes de lit, oh là là.
Sylvie... C'est un marché, hein, quand même.
Bien ouais. Évidemment.
Alors, justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un lieu, un petit peu, est-ce qu'il y a des lieux comme ça dans Paris où on peut retrouver un petit peu toutes ces marques
ou en province, c'est un temple.
En province, ouais.
Il y a des lieux. Attendez, je voulais juste vous parler d'un dernier qui a quand même reçu l'Oscar de l'innovation à l'ESSA, donc ça va très très loin. C'est très cas, parce que eux, ils ont créé. Ils ont travaillé avec la NASA, enfin non pas avec la NASA, avec des
centres spatiaux,
fibres technologiques, etc. Qui s'appelle Outlast, et en fait ça permet la thermorégulation, c'est-à-dire que ça s'adapte à la température de votre corps.
Parfait.
Vous n'avez ni jamais trop chaud ni jamais trop froid. Alors, bon,
le matelas de l'espace.
Voilà, le matelas de l'espace. Bon, et pour répondre à votre question, il y a un lieu qui vient de s'ouvrir qui s'appelle la Chambre by RHB. C'est 150 avenue Matignon, dans le 8e, décoré par l'architecte Charles Zana, qui regroupe des grandes marques comme Vispring, Capellini, Poltrona Afro. Je crois que Pillet a dessiné d'ailleurs une tête de lit pour Capellini, très capiton, blanc, à la Pillet. Ils ont aussi les luminaires, c'est chez Ocre. Toute la vaisselle, c'est Coquet. Il y a Kelly Open, vous savez l'anglaise, la décoratrice anglaise aussi. Il y a du mobilier de chez Kelly Open. Enfin, c'est très luxe. Est dédié au bien dormir. Voilà. Après, il y a une
quelques
autre...
pas de l'Élysée, c'est pas mal.
Oui,
vous avez dit que c'était
mal.
Avenue de Matignon. Je reprends.
Oui, tout à fait. Après, il y a une autre maison qui vient d'ouvrir, qui vient d'ouvrir une boutique, mais qui existait avant, qui s'appelle Secret Maison, que j'aime beaucoup, qui est 17 rue des 80 dans le 6e, c'est à Saint-Germain-des-Prés. Alors là, vous savez, c'est tout le linge de lit. Ça, on y revient beaucoup. Hein, le linge de lit en bambou. Essix en fait, Turpo, comment il s'appelle Linvauge. Bon, le bambou est une fibre qui est naturelle, qui est sans pesticides, qui pousse très vite, très bien, donc en fait qui est facile à... c'est un matériau qui est facile à avoir. Et c'est anti-acarien, etc. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses.
Ah oui, donc là même dans le linge de lit, ça devient très pointu.
Ah oui. Non,
c'est quasiment une petite biosphère. Vous avez une écosphère bien protégée désormais.
Oui,
on rentre dans son lit comme dans une zone protégée.
Voilà. Et alors, Secret Maison, eux, ils font beaucoup de linge en lin. Tout ce lin vieilli. Et ils ont 7 teintes. Et écoutez bien. Écume, encre, lichen, ébène, améthyste, perle et noir. Voilà.
Ça donne envie.
Et moi, j'adore ces lits-là. Enfin, je me vautre dans ces lits-là. Je trouve ça super bien.
Alors,
voilà.
Justement, c'est vrai qu'on arrive sur la saison du blanc, là, pour parler un petit peu commercial. Sylvie,
ah ben non, c'est historique, c'est la saison du blanc.
Vous disiez, on revient beaucoup au linge de lit. La grosse tendance cette année, justement, c'est de l'épurer pour aller avec tout ça?
Oui, c'est de l'épurer. Alors, exemple, Serge Kaffinger, vous savez, Polka, la marque Polka de vêtements pour femmes. C'est un très beau créateur, j'aime beaucoup. Il a fait pour La Redoute une ligne de linge de maison, couette justement, linge de lit. Alors très des petites lignes, très chic, très sobre. On revient beaucoup à ça. On revient aussi. Alors après, il y a une maison comme Carré Blanc qui a invité Anne Zelbar qui est illustratrice. Et en fait, elle a dessiné tout un pays, tout toute une petite histoire sur certaines collections, dont une balade imaginaire en montgolfière. Alors vous rêvez un peu, vous partez dans vos lits en rêvant. Il y a aussi, comment il s'appelle, Hervé Matejewski, qu'on aime bien, nous, qui travaille avec l'Estra, les couettes, et qui a fait aussi, bon là c'est un peu plus daté déjà, mais il a fait des couettes un peu coquines aussi. On a toujours aussi cet esprit-là. En fait, le linge de maison...
Le linge de lit, ouais.
Le linge de lit, il suit la tendance de la literie, c'est-à-dire bio, coton, bambou, lin. On revient à du naturel. Je crois qu'on a de plus en plus envie de naturel. Et des couleurs unies. Et sinon, on s'offre aussi les créateurs se lâchent un peu dessus, Castelbajac, enfin tous ces gens-là s'en sont servis comme d'une toile.
Le drap devient la nouvelle page blanche du design, on aura tout vu.
Oh, c'est beau ce que vous venez de dire.
Non, mais il a décidé d'être poète en 2010.
Oh, pas du tout. Vous n'avez pas vu la suite, attendez un petit peu.
Ah bon.
J'arrive.
Et alors après, il y a des petites marques avec les coussins. Par exemple, j'ai trouvé une petite marque qui s'appelle Les Petites Emplettes. Je crois que vous pourrez trouver sur Internet. Et notamment pour les lits des petits, ils ont des coussins en longueur. Ça se fait beaucoup. Vous savez, les petits coussins tout longs, là, qu'on rajoute, comme Maison de Vacances qui fait les coussins, qui a fait les premiers, les coussins Love, etc., les coussins avec des poils et tout, que vous pouvez rajouter sur un lit. Parce que
les coussins griffés, oui.
On décore le lit comme le reste de la maison. Et eux, ils ont un petit coussin qui s'appelle... Donc, les petites emplettes ont un petit coussin qui s'appelle Bonne Nuit, les Petits.
Parfait. Eh bien, écoutez, ça sera la conclusion, Sylvie Adigard. Ouais. C'est parfait.
Allez vous recoucher. Bonne nuit, les Petits.
Oui.
Tout c'est grâce mat aujourd'hui.
Nous, on est ravis de commencer cette grâce matinée avec vous, en tout cas, Sylvie. Merci beaucoup à vous. On fait une petite pause sur BFM Radio et on va poursuivre cette grâce mat. On va se réveiller doucement en ces premiers jours de 2010.
BFM Weekend. Sur BFM TV, restez connectés à l'info à tout moment de la journée pour être sûr de ne rien rater de l'actualité. BFM TV, première chaîne info de France, c'est le canal 15 sur la TNT et la DSL. BFM Weekend, 17h30. Les infos, Sarah Camus.
En Afghanistan, on est toujours sans nouvelles depuis mercredi d'une équipe de télévision de France 3. Deux journalistes et leur guide ont disparu à une soixantaine de kilomètres de Kaboul, dans une région instable où sont présents les talibans. Ils auraient été enlevés alors qu'ils tournaient un reportage pour le magazine Pièce à Conviction. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, qui est en Afghanistan où il a passé le réveillon avec des soldats français, affirme n'avoir reçu aucune revendication d'aucun groupe. Et puis au Pakistan, dans un village voisin des zones tribales frontalières de l'Afghanistan, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui au milieu d'un terrain de volley-ball. Il y a au moins 40 morts et 50 blessés. Depuis minuit, Madrid préside pour 6 mois l'Union européenne. Elle succède à la Suède et pour la première fois, conformément au traité de Lisbonne, il y a aussi un président permanent de l'Europe, le Belge Herman Van Rompuy. L'employé mis en examen dans l'enquête sur le vol d'un tableau au musée Cantini de Marseille a été remis en liberté. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Il s'agit d'un veilleur de nuit qui avait été arrêté hier soir par la police. La disparition de la toile, un pastel d'Edgar Degas d'une valeur de près d'1 million d'euros, a été constatée hier matin. L'origine de l'incendie est toujours inconnue, mais a priori, il s'agit d'un accident. 5 personnes de la même famille sont mortes et 13 autres ont été blessées dans un incendie cette nuit à Nîmes. Le feu s'est déclaré vers 5h du matin dans un appartement du 6e et dernier étage d'un immeuble du quartier du Val-de-Gour. Un réveillon dans le calme en France. La nuit de la Saint-Sylvestre s'est bien déroulée sur tout le territoire. Aucun incident majeur n'a été constaté, indique le ministère de l'Intérieur. Au total, un peu plus de 400 personnes ont été interpellées la nuit dernière. À Paris, pas de débordement à signaler, mais un peu moins de monde sur les Champs-Élysées. 270 000 personnes, presque 2 fois moins que l'an dernier. Le nouvel an est la traditionnelle promotion de la Légion d'honneur. Cette année, plusieurs grands patrons français ont été distingués. Louis Gallois, le président exécutif de ADS, est promu commandeur, tout comme Jean-Cyril Spinetta, le PDG d'Air France KLM. Anne Lauvergeon, la présidente d'Areva, est promue officier. Même chose pour Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et René Caron, président du Crédit Agricole. Le couturier espagnol Paco Rabanne est lui aussi promu officier, comme le photographe Yann Arthus-Bertrand. Nous sommes exactement 65 031 022 habitants en France. Ce sont les derniers résultats du recensement publié hier au Journal officiel sur la base de chiffres de 2007. Les régions les plus peuplées sont l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les départements du Calvados et de la Manche placés sous vigilance orange. On attend entre 5 et 8 cm de neige au sol. La grande majorité des autres départements sont eux placés en vigilance jaune, notamment sur le sud et dans les départements de Corse où des pluies et de fortes rafales de vent sont attendues. Coup d'envoi dans une heure du Paris-Dakar. Quelques 366 véhicules dont 136 voitures prennent le départ du rallye aujourd'hui à Buenos Aires. La caravane sera de retour dans la capitale argentine le 17 janvier après une boucle de plus de 9000 km. Vous écoutez BFM Radio, il est 17h33. Et tout de suite, la suite de Karine Verniolle et Emmanuel Rubin qui présentent Good Luxe.
BFM Radio, Good Luxe. Emmanuel Rubin, Karine Verniolle.
Et en ces lendemains de fête un peu difficiles, des Good Luxe qui traînent au lit cette semaine. Et pour cette émission cocooning, il fallait bien une tenue adéquate. Isabelle Lefort, bonjour.
Bonjour.
Et bonne année.
Oui, à vous également, bonne année.
Excellente année.
Journaliste mode pour la tribune et moi. Alors vous êtes venue pour l'occasion en pyjama, c'est sympa.
Oui, j'arrive tout droit de mon lit. Là, je suis désolée, j'ai laissé la couette à l'entrée.
Parce que ça, c'est la grande question. Comment on s'habille ? Allez, a priori, on peut dire aussi comment on ne s'habille pas pour la grasse mat.
C'est une arnaque sans nom. Le premier week-end d'année, on peut le dire. Elles ont des pulls, mais des cols roulés, remontés jusqu'au menton. Ah, je vous jure, elles vont parler lingerie ou je ne sais pas, ou pyjama, mais là, franchement... Heureusement qu'on fait pas du journalisme studio comme il y a un acteur studio, parce que vous seriez vraiment obligé de vous mettre en situation, mais rien. Non, à les bonnes dispositions, elles sont belles.
Non mais Isabelle va s'occuper de vous.
Oui, absolument. Et n'oubliez pas le fantasme, n'oubliez pas le rêve, chère Emmanuelle.
Ne brisons pas le fantasme de la radio.
Alors, Isabelle, comment fait-on pour rester un tant soit peu regardable et sexy quand on fait la grasse mat?
Alors, c'est la bonne question, sachant qu'en plus, les créateurs, grosso modo, ils nous laissent tout seuls, ils s'en moquent un petit peu. Enfin, quand on regarde un petit peu, là, j'ai quand même réussi à mener un peu une enquête pour vous. Et sincèrement, il n'y a quasiment rien. Alors, on retrouve des kits cadeaux, bien évidemment, en cette période de l'année. Mais, grosso modo, les créateurs s'intéressent à ce qu'on va porter à l'extérieur, mais alors à l'intérieur... Bon, on va quasiment nu, c'est à peu près ça leur message. Mais en ces temps de frima, ou si on est en famille, etc., on va pas forcément se balader nu toute la matinée.
Non, mais c'est dommage parce qu'il y avait une véritable élégance de intérieure. Enfin, que portaient les, en tout cas, du moins nos amis anglo-saxons et les Britanniques avaient un culte du genre.
Mais voilà. Et finalement, dans cette période où on est à fond pour le cocooning, etc., et retour aux valeurs sûres, voire refuge, eh bien, on revient exactement aux valeurs de nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire un bon pyjama, bien droit, bien taillé, etc. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Grosso modo, en fait, si on prend les tendances qui ont été données au salon de la lingerie, etc., et le prochain qui aura lieu en janvier, là, dans quelques semaines, c'est ce qu'ils appellent, en fait, c'est vraiment le retour du confort chic, c'est-à-dire le loungewear, où on va avoir à la fois des formes assez confortables, assez amples, pas trop non plus pour pas faire trop patapouf, un peu longues, etc., sans vouloir marcher dessus, donc on fait un petit peu attention, mais c'est le confort chic.
D'accord. Et alors pour ça, il faut des matières.
C'est le confort qui vient de toute façon, qui est en train de prendre la main un petit peu à l'extérieur. Aujourd'hui, on revient à des notions un petit peu plus, vous l'aviez dit d'ailleurs, lors de l'émission consacrée à la mode masculine, on voyait revenir un petit peu les belles coupes, le style un peu
absolument.
Plus
élégant.
Donc, il n'y a pas de raison que ça va peut-être profiter à l'intérieur. Et soudain, les messieurs vont sortir les pyjamas.
Absolument.
Et donc, ça passe par les matières aussi, ce confort.
Alors, ça passe essentiellement par les matières. Hein, c'est-à-dire qu'on va être sur du coton, alors du 100% coton. On ne va pas essayer de faire des mélanges, etc. Donc, ça peut être un coton d'Égypte, qui est le plus doux qui soit, parce que c'est une matière avec une fibre très longue qui est tissée très serrée pour qu'on ait un côté très très doux. On va avoir le coton bio, qui est la grande matière vedette de l'année.
Le coton de Copenhague, on l'appelle
voilà.
Désormais.
Oui, on pleure un peu dessus, mais c'est pas grave. Après, on a bien évidemment la flanelle, dans la grande tradition des anglo-saxons. Et puis, la matière vedette absolue, non pas de l'année, mais de la décennie, c'est le cachemire. Donc, le cachemire maison. maison, c'est parfait. L'idée, en fait, quand on reste chez soi, c'est, enfin, le piège, ce serait de se dire, bon, je reste à la maison, je m'habille pas. Quand on reste chez soi et qu'on fait une grasse mat, c'est un moment privilégié à la fois pour sa famille ou pour son amoureux ou son amoureuse, peu importe. Mais c'est le moment, au contraire, de se montrer un peu à son avantage, donc de faire attention à soi en se montrant plutôt à son avantage.
Alors pour ça, il y a des choses absolument à éviter. Vous avez fait quand même une petite liste. Oui. Emmanuel, prenez note.
Alors, dans la série La Grenouillère, Arthur, c'est pas possible. Hein. Donc ça, c'est une petite découverte.
Mais je savais même pas qu'elle existait encore, cette marque, d'ailleurs.
Eh ben si, elle existe encore. Bon, on lui souhaite de très jolis jours, en tout cas. Peut-être une évolution du style assez prochaine.
Il
n'y
a pas de raison, hein. D'autres sont passés par là.
Voilà. Mais donc, ils ont sorti une grenouillère grosse fatigue, 100% coton. Donc, y a pas, sur la matière, il n'y a pas de problème. Mais alors, sur le design, c'est juste pas possible.
Un petit peu resté bloqué quelque part entre 1984 et 1984.
Oui, voilà, entre mars et avril. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait.
Ils n'ont pas bougé.
Non, ils ont oublié la décennie suivante, etc. Et par exemple, ils ont un petit personnage qui est dessiné sur la grenouillère où on ne sait pas très bien si c'est un pitbull avec des grandes oreilles ou si c'est un lapin avec des petites oreilles.
Ah, ça, donc... sacré DA, hein, directeur artistique de première chez Arthur.
Donc ça, on oublie totalement. De même, enfin, il y a une chose à bannir complètement depuis les années 80, c'est le. Jogging.
Ah, le jogging, oui, bien sûr, j'allais dire.
Le jogging, bien évidemment, qu'on oublie. Et de la même manière, je ne sais pas si vous avez essayé de passer toute une matinée chez vous en peignoir, Emmanuel.
Non, vous savez, je travaille beaucoup, je m'en sors comme je peux. Moi.
Parce que le peignoir, si vous n'êtes pas bien caréné, on va dire, c'est assez difficile. À la fin de la matinée, vous avez un peu l'impression d'être entre le Big Lebowski et une personne un peu moyenne, c'est pas terrible quand même.
Mais c'est dingue, ceci dit, que les créateurs, en clin d'œil, même pour certains qui sont un peu décalés, ne jouent pas là-dessus, ne sortent pas. Alors évidemment, le peignoir, c'est difficile à travailler, mais sur des petites choses comme ça, qui pourraient un peu revisiter.
La robe de chambre, il pourrait tout de même.
Bah oui, mais alors, enfin, sincèrement, quand vous faites une enquête, c'est pas drôle du tout parce que c'est resté, enfin, très ancien. C'est oui. Un peu les robes de chambre de tonton version Oscar dans les années 60. Donc non, c'est pas génial. Ou alors après, on va passer à des choses absolument bling bling avec des gros logos où c'est siglé, etc. C'est Emporio Armani par-ci, Boss par-là, etc.
Bon, on n'a pas forcément. Non, plus de se réveiller
avec Odigé. Voilà. Ouais,
non, on n'est pas obligé.
Et puis finalement, le peignoir, vous avez toujours
la même. Vous n'êtes juste pas obligé d'Odigé.
Non, pas vraiment non plus.
Donc on évite la grenouillère, grosse fatigue, le jogging, le peignoir.
Ouais, sur la djellaba, je ne sais pas.
Alors, et tout est dit.
J'ai un doute, je n'ai pas d'avis sur la question.
En ce moment, vaut mieux pas parce que ça pourrait être retenu contre nous. Alors qu'on vraiment parlait que de lingerie intérieure, on vous promet.
Et moi, j'ai découvert sur Internet quand même un boxeur, un tout simple, un petit boxeur. Bon, jusque-là, ça va, mais il y a écrit Fédération française de la grasse matinée.
Oui, voilà.
Si vous avez décidé de faire un concours d'horreur et de tout ce qu'il ne fallait pas faire, je peux y aller aussi.
Oui,
hormis le kimono, peut-être, parce que ça relèverait d'un fantasme lointain et un peu extrême et un peu oriental. Non! Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors,
aidez-nous.
La bonne chose, le bon conseil, c'est d'aller chez Célio. Où là, vous allez trouver pour... Ben oui, voilà. Donc, il faut chercher... Enfin, l'époque, elle est revenue quand même au bon rapport qualité-prix. On va arrêter de dépenser son argent n'importe comment, etc. Donc, soit on prend une très bonne matière et on met le prix, ou alors on va chercher le juste prix. Et là, pour le coup, Célio a sorti un pyjama qui s'appelle le pyjama Didou. Donc, vous allez voir sur le plan du vocabulaire, les pyjamas et les... On a beaucoup de choses à faire. Mais bon, le pyjama Didou, 100% coton, en pantalon rayé, noué à la taille, avec un t-shirt long, enfin un t-shirt à manches longues, avec un petit col tunisien.
T-shirt tunisien, oui.
Parfait. Voilà, il est anthracite, avec la petite rayure, etc. Vraiment, enfin, il n'y a aucun problème, il peut aller à tout le monde.
Parfait. Le problème, après, c'est les pantoufles, mais on verra ça à une autre émission.
Oui, non, ça, les pantoufles, ça, c'est... Là, je désespère.
Elle va repartir en enquête, rendez-vous dans un mois.
Absolument.
Ouh là là, attendez, on en est déjà à Didou.
L'autre, c'est... alors, la bonne découverte, et ça, c'est mon pyjama préféré, à 10,40€. Donc là, c'est vraiment carrément la super bonne affaire. C'est le Daxon, D-A-X-O-N, et qui est un pyjama en flanelle, donc parfaitement anglo-saxon, etc., avec un imprimé écossais bleu et blanc, la veste bouquetonnée à revers, entièrement passepoilée, quatre poches plaquées, et il est impeccable pour 10,40€. Donc
ça, c'est la bonne trouvaille d'Isabelle Lefort. Ah non,
et
ça,
on trouve
la...
celui-là, le Dachshund.
On le trouve sur Dachshund.fr.
C'est pas mal, j'ai un Dachshund.
J'ai un Dès Dachshund. Matin, Sinon, alors, si vous voulez aller dans le summum du pyjama anglo-saxon, vous allez chez Charvet. Hein, donc là, vous allez avoir la plus belle matière, le plus beau coton, etc. Mais ça vous en coûtera quand même 315€.
Mais Good Luxe, peut-être aussi Boulevard des Capucines, ils en font pas là.
Ils en font aussi, mais c'est à peu près dans le même ordre de prix. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir si vous préférez 10,40€ ou 315€.
Tommy Hilfiger en fait des pas mal très classiques aussi.
Voilà, Tommy Hilfiger, ils sont pas mal du tout, et puis ils ont l'avantage de pas avoir des gros logos, etc. Ralph Lauren, en revanche, c'est très étiqueté, donc on évitera peut-être, sauf si on a quelque chose à revendiquer de particulier.
Et si on a vraiment grand goût de luxe, là, 315€, c'est ce que vous nous avez trouvé de plus cher ?
Grosso modo, oui. Après, vous faites du sur-mesure, hein, si vous voulez. Hein, mais
ça existe, les pyjamas sur-mesure ?
Tout existe sur-mesure.
Ah ben oui. Pourquoi pas?
Allez, vous savez, il y avait des hommes qui ont des jambes courtes, des gens qui ont
des jambes longues, etc. Il n'y a pas d'épaule, vous savez, il y a des hommes voilà. qui peuvent se permettre
Donc on peut
le peignoir.
Tout faire. Voir la gueule là-bas.
Qui l'évite fondamentalement. Puis une bonne leçon, ce qu'on peut faire, c'est vrai que parfois il arrive qu'on regarde des, vous savez, des vieux films hollywoodiens, justement quand on fait la grasse matinée, et notamment dans les films de Capra, entre autres, toutes ces comédies romantiques, etc. Vous voyez les femmes toujours formidablement bien habillées avec ces déshabillés et autres, et les hommes aussi qui accompagnent avec des robes de chambre. Une bonne leçon là de Cary Cooper, de Gary Grant, d'élégance, ça fait pas de mal.
Charvet toujours pour ça. Voilà.
Alors justement, il nous reste juste une toute petite minute, et Isabelle, peut-être deux marques assurément efficaces pour les femmes en grasse mat.
Alors pour les femmes, RS, ça c'est formidable, mais ça, là aussi ça coûte un peu un bras. Mais ils ont lancé depuis 5 ans toute une ligne de vêtements pour la maison qui sont absolument, enfin qui est absolument formidable. Et l'autre marque, c'est Repetto. Alors moi j'adore. On prend en fait, on détourne les vêtements de danseuses parce que les matières sont impeccables. Vous les utilisez pendant 10 ans, ça ne bouge pas, ça ne se déforme pas, et c'est extrêmement confortable.
Voilà, et vous restez bien, sexy. Quand même.
Ah non, j'avais une petite chose encore pour finir.
Non, parce que finir par une femme Repetto, une femme RS le matin, là, ça donne envie de faire une grasse matinée.
Pour les hommes,
on comprend le thème de l'émission.
Pour les hommes, parce que les hommes ont toujours un peu froid quand même à leurs petits pieds.
Non, un truc important.
10 secondes.
Justement, je ne la laisserai pas parler.
Non. Moi, ce que j'adore, c'est la marque italienne Gamarelli, qui vient d'arriver en France, que l'on trouve, et qui est la marque, en fait, qui fournit le Vatican. Donc, si vous voulez avoir des chaussettes en fil d'Écosse ou en laine mérinos couleur violine, pourpre, etc. Voilà, vous faites Gamarelli et c'est très bien.
Il y a un côté blasphématoire.
Merci beaucoup Isabelle d'avoir passé cette petite grasse matinée avec
nous préparé à dans deux mois.
Les prochaines, on retrouve votre signature dans la tribune et moi. On fait une toute petite pause sur BFM Radio et on va boire un petit thé avec le dirigeant de Kousmiti.
BFM Weekend.
Retrouvez l'entreprise BFM tous les samedis à 19h et dimanche à 13h avec les solutions entreprise CIC. CIC, parce que le monde bouge. Et si cette semaine, on restait bien au chaud? D'abord, je vous montrerai 50 démarches administratives et services pratiques accessibles de chez vous. Enfin, je testerai 9 paires d'enceintes pour PC à partir de 80€.
Attirant et tellement pratique. Micro-hebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Micro-hebdo, simplifiez-vous la vie.
BFM Radio, goût de luxe. Emmanuel Rubin, Karine Verniol.
Trop bu, trop fatigué. Nos goûts de luxe font la grasse mat cette semaine. Et pour l'occasion, petit déj joli. Thé ou café, il y en aura pour tous les goûts. Allez, thé d'abord. Sylvain Réby, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, tous nos voeux pour cette nouvelle année.
Merci, je vous souhaite une année pleine d'antioxydants.
Ok, on va essayer de commencer.
C'est original ça, on mettra pour le best-of 2010.
Sylvain Rémy, vous présidez le groupe Orientis, donc propriétaire de Kousmiti, Olivier Langlois et Bintou Cup qui distribuent les machines à café Jura. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le thé Kousmi, d'autant plus qu'en cette année 2010, il va être particulièrement à l'honneur ce thé Kousmi.
Et oui, le thé Kousmi va être à l'honneur cette année parce que 2010, c'est l'année de la Russie en France. Et d'ailleurs, l'année de la France en Russie. Et donc, il va se passer beaucoup de choses. Et comme Kousmi est une maison russe, c'était la maison Kousmitchov qui a été créée en 1867 à Saint-Pétersbourg. Eh bien, Kousmi va être à l'honneur pendant toute l'année.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette
saga,
sur cette saga, sur cette maison qui a connu des heures de gloire et quelques moments un petit peu plus difficiles?
Eh bien, écoutez, comme je vous le disais, Kousmi, la maison Kousmitchov a été créée par Monsieur Pavel Kousmitchov en 1867 à Saint-Pétersbourg, où elle a prospéré pendant une cinquantaine d'années, où elle était une des trois grandes maisons de thé russe et où elle fournissait le thé du tsar qui s'appelait le bouquet de fleurs. Et donc, ça a prospéré 50 ans jusqu'en 1917, où la révolution a démarré en Russie et où la famille a fui vers Paris, ce qui est notre grande chance. Et on a retrouvé la famille Kousmitchov qui s'installe avenue Niel, au 75 de l'avenue Niel, où se trouve toujours le lieu qu'ils avaient occupé à l'époque. On est toujours là, où il y a toujours une boutique en fond de cour. Ils ont redéveloppé leur société à partir de Paris depuis 1917. Ça fait donc 93 ans maintenant que la société est en France et que c'est devenu, après avoir été un thé russe, Kousmi est maintenant un thé français.
Alors, juste, il y a eu un petit moment, un petit peu de flottement. En 1972, les Kousmitchov vendent l'affaire. Là, il y a le moment de flottement. Et heureusement, là, les frères Orebi arrivent, si j'ose dire, en 2003. C'est vous qui avez relancé Kousmiti en France, et ce qui est assez temps, évidemment, vous êtes appuyé sur toute l'histoire et sur tout le savoir-faire de cette maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on retrouve les mêmes recettes créées depuis 1867. Plus d'autres.
Alors,
évidemment.
Exactement, on a les mêmes recettes comme 1867. Tous les thés qu'a créé Pavel, puis Vyacheslav, son fils, sont encore dans notre gamme. Que ce soit des thés de nature, des thés noirs, quelques thés verts, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et évidemment, les grands mélanges russes comme Prince Vladimir, Anastasia, Troïka, Bouquet de Fleurs, dont on a conservé les recettes depuis l'époque et qu'on a remis au goût du jour aujourd'hui, qu'on poursuit de la même façon pour les grands amateurs de thé Kousmi.
Mais alors justement, moi qui ne suis pas un grand amateur ni de Kousmi ni de thé, donc un parfait novice, les feuilles de thé, elles viennent de Russie, elles viennent d'où ces feuilles de thé qui font les mélanges de la maison?
Alors les feuilles de thé ne viennent pas de Russie, il y a du thé en Russie mais de très mauvaise qualité. En fait, le thé depuis toujours vient de Chine, puisque vous savez que la Chine a une frontière commune avec la Russie, et le thé venait de Chine vers la Russie en caravane. C'était des caravanes de 200 ou 300 chameaux qui ont existé jusqu'aux alentours de 1900, quand le transsibérien a été mis en circulation. Et le thé venait de Chine. Le grand intérêt du thé conservé en Russie est qu'il évitait le voyage maritime, et donc il évitait la mouille, l'humidité, l'eau marine, l'eau salée, et qu'il arrivait en très bonne forme et de très bonne qualité à Moscou et à Saint-Pétersbourg.
Aujourd'hui, il vient toujours de Chine.
Alors aujourd'hui, il vient de Chine, il vient d'Inde, il vient de Ceylan. Ce sont les trois grandes nations du thé. Et nos mélanges sont, et nos thés sont des mélanges d'Inde, de Chine, de Ceylan, selon chacun des thés. Alors il y a soit des thés nature, bien sûr, soit des thés aromatisés, qu'on aromatise avec des arômes qu'on trouve dans les villes des parfums, comme Grasse, par exemple, où on achète beaucoup d'arômes de fleurs, ou bien en Calabre, on achète beaucoup d'arômes de fruits, particulièrement d'agrumes. Mmh. Et c'est avec ces arômes qu'on fait les mélanges Kousmi.
Allez, on va reparler rapidement des mélanges Kousmi. Et justement, à propos de ces mélanges, et plus particulièrement, vous l'avez dit, elle est de la Russie. Kousmiti, c'est une marque historiquement russe. Qu'est-ce qui fait la différence et l'originalité d'un thé russe, justement, par rapport au thé de Chine, au thé de Ceylan ou au thé indien? C'est quoi l'esprit d'un thé russe?
Alors, le thé russe, à la base, c'était un thé noir. Et le thé noir qu'on buvait en Russie n'était pas très bon, il était un petit peu amer. Et les Russes ont donc trouvé une méthode pour l'adoucir un petit peu, c'est d'y ajouter des agrumes et de boire ce thé à travers une écorce d'orange ou avec un petit morceau de sucre candi. Et c'est ainsi que sont nés les thés russes, qui sont en fait les mélanges russes, ou les goûts russes. Ce sont des thés noirs aromatisés avec de la bergamote, avec des agrumes, avec des épices, tout ce qui permettait d'adoucir le thé et d'en faire un breuvage un petit peu moins amer que ce qu'il était à l'époque. Il faut savoir qu'en Russie, le thé était la boisson nationale. Vous savez que le samovar
prenait
dans toutes les maisons. Oui, concomitamment, je dirais. Et le samovar trônait dans toutes les maisons. Et le mot pourboire, d'ailleurs, en russe se dit «natchai», ce qui veut dire pour le thé. C'était vraiment la boisson nationale et ça l'est toujours d'ailleurs.
Alors Sylvain Oribi, ce qui fait aussi peut-être la particularité de Kousmiti par rapport à d'autres grandes maisons de thé que sont Daman, que sont Mariage Frères, que même le Palais d'été par exemple à Paris et qui a essaimé un petit peu partout, c'est que le thé est vendu dans des boîtes en fer et il y a un packaging même pour les petits sachets très coloré. Est-ce que ça existait dès le départ?
Oui, bien sûr. Ça existait dès le départ. En fait, quand vous regardez une boîte Kousmi, vous trouvez sur l'étiquette la vue de Saint-Pétersbourg. En fait, ce qu'on voit sur l'étiquette, c'est la cathédrale Saint-Isaac et le petit cavalier qui sont au bord de la Neva. Et donc, c'est Pavel Kousmitchov qui a créé, qui a dessiné cette vue de Saint-Pétersbourg à l'époque. Il avait donné une couleur à chacun de ces thés, et ce sont les couleurs qui sont conservées encore aujourd'hui. Le thé anglais était orange, le thé du matin était rouge, le prince Vladimir était bleu, etc. Et ce sont les couleurs qu'on a conservées aujourd'hui.
Ah oui, c'est étonnant parce que il était drôlement moderne pour l'époque finalement, parce que quand on voit aujourd'hui, du coup, ça donne une autre allure à au thé classique.
Mais c'est une tradition des thés russes quand même d'avoir toujours des boîtiers assez historiographiés, j'allais dire, parce que presque à la manière d'icône, on aimait bien retenir les petits russes ou les enfants des émigrés russes jouaient beaucoup avec ces fameuses boîtes de thé qui étaient toujours en métal, mais toujours très très colorées, toujours très dessinées. Je ne sais pas si les samovars sont un personnage de la littérature russe, mais les boîtes de thé, elles le sont.
Alors, on parle...
Oui, les boîtes de thé et les samovars, on parle beaucoup de samovars dans Dostoïevski.
Tout le temps.
Et dans Tolstoï et autres.
Alors, on a parlé des grandes recettes créées dès l'origine, comme Anastasia, comme Prince Vladimir, mais depuis, évidemment, vous en créez d'autres, et heureusement, des nouvelles recettes. Et vous vous orientez, Sylvain Aurébi, un petit peu vers l'aspect bien-être.
Oui, bien entendu, parce que aujourd'hui, le thé a pris toute sa dimension dans ses qualités de bien-être et les gens recherchent les bienfaits du thé qui sont les antioxydants dont on parlait tout à l'heure. Kousmi s'est posé résolument dans cette modernité et a créé également des mélanges bien-être qui sont des mélanges de thé vert particulièrement, mais aussi d'autres plantes comme le maté, qui est une plante d'Amérique du Sud qui pousse en Argentine et au Brésil. Et qui constitue la base avec le thé vert de notre détox, qui est le thé bien-être par excellence.
Ah oui, on en avait parlé dans Good Luxe.
Notre numéro un aujourd'hui.
Ah oui, ça a détrôné tous les autres, le détox.
Alors, ça a détrôné Prince Vladimir, le détox a détrôné Prince Vladimir, parce que maintenant, les jeunes femmes qui sont notre...
Ah, vous l'avez dit, les jeunes femmes.
Oui,
c'est elle.
J'ai finalement réussi à trouver comment les attraper, c'est grâce au détox.
Et qui crée ces nouvelles recettes aujourd'hui pour Kousmiti?
Eh bien, principalement, c'est moi, c'est-à-dire que c'est moi qui les imagine, c'est moi qui prépare les recettes, qui fait tous ces mélanges, et puis après, on les déguste en équipe pour voir un petit peu ce que chacun pense. J'ai une grande chance, c'est que j'ai un goût assez commun, si j'ose dire, c'est-à-dire que les thés que je crée, les thés que j'aime bien, plaisent à la plupart des gens. C'est une grande chance, j'ai la chance de ne pas avoir un goût trop sophistiqué, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de thé ou d'autres produits d'ailleurs qui ont des goûts très sophistiqués, très compliqués, mais qui sont pas tellement accessibles. Et en fait, moi, avec mon goût simple, j'arrive à créer des thés qui sont, je suis heureux de le dire, acceptés et appréciés par une majorité de gens.
Et puis, il faut le rappeler, là, vous êtes modeste, Sylvain Aurébi, mais quand même que vous êtes tombé dedans quand vous étiez
petit. Ah, tout de même, c'est la question que j'allais poser. Comment devient-on un théophile?
Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que j'étais gringo quand j'étais petit. Et j'étais un spécialiste du café et du cacao et j'allais, tel le gringo Jack Vabre, sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud et d'Afrique ou d'Asie, chercher des cafés et des cacaos. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au thé il y a une douzaine d'années. Et j'ai appris le thé avec tout un tas de gens qui m'ont expliqué comment le thé fonctionnait. Alors, moi, j'avais déjà un palais qui était exercé pour la dégustation du café, du cacao. Et j'ai appris le thé comme ça, et voilà comment on devient théophile, comme vous dites.
Alors, vous êtes l'un de ceux qui orchestrait la maison franco-russe, russo-française Kousmiti, mais dans le même temps, on voit à Paris aussi, là encore, en province, aujourd'hui, de nombreuses maisons de thé, et notamment celles qui racontent des thés, alors on l'a dit, les thés de Ceylan, les thés chinois, les thés indiens, et aussi les thés japonais qui fleurissent un peu avec le fameux thé vert. Aujourd'hui, les gens, quand ils rentrent dans une boutique de thé, c'est d'abord parce qu'ils ont été dragués, j'allais dire, par un joli marketing, une jolie boutique, un joli savoir-faire, ou alors est-ce qu'on découvre des gens de plus en plus avertis et qui finalement choisissent leur thé par saveur élective?
Eh bien, je dirais qu'il y a les deux. Il y a des gens qui sont attirés par l'écran et qui découvrent le thé comme ça et qui ensuite deviennent des vrais amateurs et qui, après avoir goûté un, deux mélanges, commencent à rechercher des saveurs un petit peu plus fines, un peu plus recherchées, comme les thés japonais d'ailleurs. Et puis, il y a des gens qui viennent parce que ce sont des connaisseurs, parce que ce sont des gens qui aiment tel ou tel thé, qui viennent le rechercher, parce qu'en dehors des thés Kusumi classiques, eh bien, on a tout un tas de thés de Chine, d'Inde, de Japon, qui sont des thés de grande qualité, comme les Gyokuro, les Genmaicha. Et donc, on peut trouver ça chez nous également. Vous pouvez trouver un petit peu des deux types de clientèle.
Alors Sylvain Henribion, on n'a malheureusement pas le temps de s'arrêter sous toutes les ouvertures de boutiques parce que là Kusmiti vraiment explose, que ce soit en France, à l'international. On renvoie au site internet kusmiti.com, c'est ça?
.com.
Mais quand même, je voudrais revenir là, une dernière question rapidement sur votre actualité. Il y a un nouveau produit, quand on disait que vous lancez vraiment dans le bien-être, là ça va très loin, puisque vous lancez avec la marque Kills, le thé Imperial Label. Racontez-nous en...
Kills, les produits de votre...
Alors, eh oui. En deux secondes, Kills, la marque new-yorkaise de cosmétiques, est venue nous trouver il y a bientôt un an pour nous dire qu'ils allaient lancer une crème à base d'argousier, qui était une vieille baie russe, et ils voulaient qu'on fasse un thé qui aille avec cette crème. Et ils voulaient qu'on ravive, qu'on fasse revivre une vieille recette qui est l'ancêtre du thé, qui vivait en Russie depuis le 12e siècle, et qui s'appelle le zbiten, qui était un mélange que j'imagine d'orange, de cannelle, de miel... Et ils ont demandé à ce qu'on refasse ça, et j'ai donc créé un thé vert aujourd'hui avec justement de l'orange, des épices, et pour remplacer le miel, de la réglisse qui donne un peu cette douceur, et évidemment de la baie d'argousier pour la marier avec la crème de Kills. Et voilà, le label Impérial est sorti, il a beaucoup de succès, d'ailleurs il est sorti il y a quelques semaines, il a beaucoup de succès, il se marie très bien avec l'Imperial Body Balm, qui est la crème de corps de Kills.
Et ben voilà, tout pour vous faire du bien. C'est bien joué, ça, comme coup marketing.
Toujours une histoire de vous me direz. Hein, on peut tartiner,
c'est pas mal. Alors, il faut que je vous dise encore, si j'ai
son corps bronzé.
On vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Paris, rue Daniel Casanova, qui est juste derrière la place Vendôme et la place du marché Saint-Honoré. Et c'est une boutique qu'il faut aller voir, même si on n'achète pas de thé, parce que c'est une boutique des années 20. Elle est art déco, elle a une façade de fromagerie, et à l'intérieur, elle a un plafond peint qui est classé, un plafond qui a été peint par les ateliers Benoît en 1925. Elle a des marbres magnifiques. Il faut absolument aller la voir parce que c'est une pièce, une œuvre d'art, et on a ainsi Kusumi dans ces années 20 qui étaient les années qui l'ont vu arriver en France. Et il faut absolument rendre visite à cette boutique rue Daniel Casanova au 25. Ça vaut vraiment la peine.
Merci beaucoup Sylvain Rébi. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Kusmiti. On fait une petite pause sur BFM Radio, une grosse pause, même le temps des informations. Good Luxe, on parlera café, on parlera petit-déj et puis les meilleurs croissants de Paris aussi à venir. Merci.